Armand Sylvestre, conte audacieux. Barbassol. Il y a de belles lunes, sans compter la vôtre, marquise, que Gaudissart est mort, et le représentant de commerce d'aujourd'hui ne ressemble guère au commis voyageur d'antan. Notre contemporain est le plus souvent un monsieur très grave, que sa famille a trouvé trop sérieux pour le fourrer dans la politique. Un bavard plus correct que ceux de nos chambres, le représentant du « comme il faut » et de l'irréprochable dans la vie départementale. L'autre, le Gaudissart authentique, était un bon luron, un bruyant compère, un facétieux personnage, le bout en train des tables d'hôtes, la gaieté des diligences, le large rire des grandes routes et le bon humeur des pots dans les auberges, grand tourneur de cocu à 16 heures, faisant à lui seul autant de vacarme que 20 jets dans une cage, fumiste avant tout, et aimant à se gausser des autres. Par ce temps de mélancolie à outrance, il m'est arrivé de le regretter. Notre siècle meurt de convenance et de belles façons. Il a bien fallu inventer quelque chose pour remplacer la réelle courtoisie de nos aïeux, laquelle était saupoudrée d'infiniment de gaieté. Ce quelque chose est insupportable. Mais c'est un conte que je vous dois, et non pas une méditation douloureusement rétrospective sur l'hypocrisie des manières de mon temps. J'ai connu le dernier Gaudissart, peut-être, et je lui dois bien un souvenir. C'était un grand gaillard de belle figure, comme Panurge, dont Doré, dans ses illustrations, a fait à grand tort un gringalet. Il avait de larges épaules, la face rubiconde, de petits yeux gris, semblant 2 gouttes de pluie dans une pivoine, la bouche polissonne et un grand air de santé. Il portait des vêtements romantiques et qui le signalaient tout d'abord à l'attention publique. Quand je dis que je l'ai connu, nous avons passé en tout 48 heures ensemble, dans les circonstances que je vais dire. J'étais adolescent encore et revenais à Montauban par Brive pour prendre mes vacances chez l'oncle Marcelin. On m'avait confié au père Migeloux de Cubsac, qui avait le même trajet à faire, étant venu acheter des truffes pour en farcir des foies. Ce Migeloux, une rude tête de paysan, extraordinairement naïf, et qui vous avait une femme à faire damner un collégien. Tout ce que nous aimons au réveil sacré des sens, et quand les premières révoltes de la puberté nous tourmentent, pareil aux sèves printanières. Des nénés à remplir 2 bassines, un pétard à meubler une cuve, et des cheveux noirs, et des yeux de braise, le midi tout entier dans ses veines, avec le sang des vignes et le jus des pêches, où l'on se tord les dents. Des pêches couleur d'ambre, avec des fouettées de carmin. Oh, la belle femme, et bien conçue pour déniaiser une innocence masculine. Mais le père Migeloux, qui était avare de tout, n'aurait pas permis que cette leçon me fût donnée gratuitement, et je n'avais jamais, en ce temps-là, 2 sous dans ma poche. Donc nous étions partis de Brive, 3 dans le coupé d'une patache, Migeloux, moi, et un autre encore, le Gaudissart que je vous ai dit, et dont je sus le nom bien vite, car tous ses colis portaient une plaque de cuivre avec ces mots en calligraphie. Barbassol. Une nuit d'été est la route la plus admirable du monde. En haut, un éparpillement d'étoiles. À terre, de grandes silhouettes d'ombre, répétant, éclairées par la lune en arrière, sur le chemin tout blanc, le profil montueux du paysage. Grand bois enlaçant les collines, où pendait la fantasmagorie de quelques ruines féodales. Et tout en bas dans les ravins, de belles eaux claires qui couraient dans les gazons comme des fusées d'argent. Et c'était une délicieuse odeur de nature endormie, l'hymen de tous les souffles dans un air tiède et plein de fleurs sauvages. La mystérieuse respiration du grand être quand il se recueille dans l'infini des ténèbres clémentes. Le grand silence coupé seulement par les claquements du fouet, sur les échines fumantes des rosses, dont l'agonie haletait dans cet universel apaisement. Le père Migeloux m'avait cédé un coin par déférence. Monsieur Barbassol avait occupé l'autre d'autorité, et le paysan était entre nous deux, ses genoux calleux montant plus haut que les nôtres. Et je fermais les yeux, dans un assoupissement délicieux, où toutefois je ne perdais rien de ce qui se passait autour de moi. En dehors de son avarice, Migelou avait un sacré défaut, une véritable curiosité de femme. Il fallait qu'il sût tout, particulièrement ce qui ne le regardait pas. Ce fut donc lui qui entama la conversation avec Barbassol, qu'il ne connaissait pas, et celui-ci, qui était farceur dans l'âme, au lieu d'être prolixe comme à l'ordinaire, s'enferma dans un demi-mutisme tout à fait mystérieux, histoire de faire poser son interlocuteur, ce qui était le plus grand souci de sa noble vie. Il fallut à l'indiscret des prodiges de diplomatie pour s'assurer que l'inconnu était un commis voyageur. Oui, mais pour quel article voyageait notre compagnon? Pour les vins? Pour la soirée? Pour les laines? Pour la bimbloterie? L'autre avait des façons de répondre évasives qui ne permettaient pas d'asseoir une certitude. Il devenait clair qu'il était embarrassé pour avouer la nature de l'industrie qu'il représentait. Ah! La vaisselle intime! Point. C'était à donner sa langue au chat, et le père Migelou avait une langue à régaler plusieurs matous. Je m'amusais infiniment de son martyre, en gardant néanmoins une paupière close, pour rendre plus facile la confidence à venir. Car moi aussi je commençais à être tout à fait intriguée. De quel commerce obscur cet étrange Barbassol était-il le silencieux commis? Et je glissais vers lui, entre mes cils, de longs regards interrogateurs et obliques, tâchant de deviner et ne surprenant qu'un scintillement d'astre dont les vitres embuées étaient diamantées. Tout à coup, ce Barbassol extraordinaire sembla se départir de sa réserve et parla bas à l'oreille du paysan, qui se mit à rire comme un sac de noix qu'on secoue. Nom de Dieu de farceur, disait le père Migelou. Mais l'autre, toujours dans l'oreille, lui parla d'un tel sérieux que les yeux du vieux s'écarquillèrent, et que celui-ci reprit l'entretien que je finis par saisir. Alors, disait Migelou, c'est dans les ménages sans enfants qu'a votre clientèle. Précisément, fit Barbassol. Et vous êtes un malin. Le paysan se reprit à rire bêtement. Et vous y faites pousser des héritiers de commande? Vous l'avez dit, mon petit père, riposta le gaudissart. Ah ça? Et comment vous y prenez-vous? Ça, le vieux, c'est mon affaire. Migelou réfléchit un instant, ou en eut l'air. Après quoi il reprit. Un garçon ou une fille à votre choix? Non, au choix des personnes. Et l'enfant devient? Ce que je veux, ou plutôt ce que ses parents ont voulu. Je ne suis préoccupé que de bien servir mon monde. Comment ça? Eh bien, si on veut pour fils un paysan, un simple villageois, c'est tant. Désire-t-on un rentier ou un petit commerçant, c'est un peu plus cher. Dame, si on me demande un général, il faut y mettre le prix, et pour avoir un pape, ça coûte les yeux de la tête. Un pape, murmura Migelou. Un pape! Et il se passa les lèvres sur le bord des babines, comme s'il se fût pourléché de quelque gourmandise. Et il répétait. Un pape. J'ai oublié de vous dire que le bonhomme, qui était riche, était absolument dénué de postérité, ce dont il enrageait. Pour long comme ça, c'est 25 francs, et vous avez un paysan. Ça ne fait pas mon affaire, répondit vivement Migelou, trahissant enfin des intentions secrètes. Le commis voyageur passant à la seconde phalange. Pour long comme ceci, c'est 50 francs. Je vous livre un rentier ou un petit commerçant. Ça n'en vaudrait pas la peine, fit Migelou. Les gens qui cultivent la terre sont encore plus heureux. Et un pape? Il posa cette question avec de la fièvre dans la voix, et tout bas, comme on parle dans un rêve. Pour un pape, il faut tout ça, riposta Barbassol, en tendant toute la longueur de son doigt. Et ça coûte 500 francs. « Bon Dieu ! » s'écria le paysan en reboulant ses petits yeux gris et cupides, comme s'il allait avoir une attaque. Mais bientôt d'un ton câlin jusqu'à la félinerie, et vous ne pourriez pas me faire une diminution, une toute petite diminution ?»« Impossible, j'y perdrai, » répondit imperturbablement Barbassol. Plus un mot pendant quelques instants. Enfin, avec un grand soupir. « Eh bien, » dit le paysan, « puisque vous n'êtes pas raisonnable, je me contenterai d'un petit rentier. Seulement j'exige que sa fortune soit placée sur les fonds publics. » « Va pour 100 francs, » fit avec une petite moue désappointée Barbassol, « et payez d'avance. » Le paysan sur un ton résigné. « Venez loger cette nuit à Cubsac, chez moi, ce sera le plus simple. » Barbassol accepta, et je compris l'épouvantable vérité. Les détails seuls de l'affreux projet médité par Migelou m'échappèrent, parce qu'il se remit à parler à l'oreille de Barbassol pour lui donner ses dernières instructions. Mais je devinais. On préviendrait Madame Migelon et les gros nénés, et le volumineux pétard, et toute cette vendange de bien défendu serait la proie de cet intrus, de cet intrigant, de ce fourbe de Barbassol. Car je ne croyais pas un mot à la vertu de son invention procréatrice. Le matin était venu, et le jour entier se passa pour moi dans ces tristes réflexions. Les fatalités s'accumulèrent autour de mon désespoir. Moi aussi je devais loger cette nuit-là, la seconde du voyage, chez Migelou. Et une fois arrivé à Cubsac, ne me donna-t-il pas la chambre voisine de celle de sa femme ? Une simple cloison entre les deux pièces. Je ne perdais rien de cette déshonorante expérience. Et jamais Madame Migelou ne m'avait paru plus belle. Gorge et fessiers me semblaient s'être encore tendus davantage vers les délices pressentis. Il aurait fallu 3 dizaines de mains pour occuper tout cela. Une triple pelote qui semblait solliciter l'épingle. J'eus la tentation un instant de ne pas rentrer. Mais il pleuvait à verse, après une journée de poussière, et j'étais horriblement meurtri par 22 heures de diligence déjà. Mon cerveau était cependant le plus libre et le plus avisé du monde, et, à mon tour, j'étais pris d'une indicible curiosité. Avec beaucoup d'étonnement, je me convainquis qu'après avoir fait semblant de sortir, pour laisser Barbassol causer librement avec sa femme, Migelou avait été se cacher tout simplement dans la chambre de celle-ci. Déjà rentré dans la mienne et en train de me déshabiller, je l'avais très distinctement entendu se blottir derrière le lit. Allais-je assister à travers cette fragile muraille à quelque vengeance terrible d'une jalousie inattendue ? Quel sombre dessein pouvait méditer cet homme ? Ce facétieux Barbassol serait-il tombé tout bêtement lui-même dans un piège ? Peut-être tout cela était-il une comédie entre Madame Migelou et lui. Sans doute, il la connaissait déjà. Le mari avait eu vent de quelque chose. Il attirait là le galant pour le frapper. Et mes dents claquaient à ses idées horribles. Ne devais-je pas m'élancer et prévenir cette malheureuse femme ? Crier à Barbassol, fuyez ! Certes, c'était mon devoir. Mais je n'eus pas le loisir de l'accomplir. À pas de loup, et sans que je les aie entendus monter dans l'escalier, le commis voyageur et l'épouse adultère entraient dans la chambre fatale. Toujours discret, je collais mon oreille à la muraille. Et je ne perdais rien. Non, rien du colloque amoureux, où d'ailleurs il ne se prononça pas un seul mot. Ce Barbassol n'était pas bavard en affaires. Mais il me sembla laborieux, ce qui vaut davantage. Tout à coup, le bruit d'une énorme claque sur un derrière, un gémissement suprême de l'acajou, et la voix de Migelou criant triomphale : « Nous aurons un pape, cap de Dieu !»